Bonjour et merci d'être fidèle au Grand Face à Face tous les samedis. Vos rendez-vous jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter. Le duel Polony-Finkelstein et puis un anniversaire, le Louvre version Mitterrand, Lang et Pei, fête ses 30 ans. Le 29 mars 89, François Mitterrand inaugurait la pyramide du Louvre et les polémiques autour de la pyramide semblent loin, très loin. Le Louvre est aujourd'hui le musée le plus visité au monde, un record symbolique était franchi l'année dernière, plus de 10 millions de visiteurs. Faut-il regretter l'époque des grands travaux, des projets aussi colossaux que celui-là serait-il imaginable aujourd'hui? Et à quoi devrait ressembler la politique culturelle sous l'ère Macron? Le Grand Face-à-Face ouvrira le débat avec l'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde Arabe. Jack Lang publie les batailles du Louvre et il viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le Grand Face-à-Face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Si vous deviez choisir une œuvre, une seulement, qu'il faudrait sauver au musée du Louvre, Natacha.
Alors écoutez, je déteste ce genre de questions, d'autant plus que sauver une œuvre au musée du Louvre, ce serait déjà un drame absolu, donc je me refuse à envisager ça.
Mais c'est comme si je vous demandais quel livre vous prendriez avec vous sur une île déserte.
Oui, j'ai jamais su répondre.
Vous non plus, Gilles.
Moi non plus, j'ai jamais su répondre, mais on posait une fois cette question... Eh bien voilà, je ne sais plus.
Je poserai en tout cas la question à Jack Lang avant le duel, la semaine des humoristes d'Inter, mise en onde par François Audouin. Et on démarre avec les violences du week-end dernier à Paris. Charline Vanhoenacker elle-même en a fait les frais.
Hier midi, j'invite des amis à dîner, je veux flamber une banane au rhum. Je dis « éloignez-vous, qu'on ne finisse pas comme au Fouquet's ». Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Ah bah bravo, rire du Fouquet's, tu fais le jeu des casseurs tant que tu y es. On se détend, j'aurais pu aussi bien dire que le Fouquet's est devenu notre nouvelle Jeanne d'Arc, sauf pour autant me réjouir du sort de la pucelle, sort d'ailleurs commun à celui de mes bananes. Je suis tout aussi colère de voir les kiosques à journaux incendiés. Mais on peut être ulcéré et se dire que c'est quand même très con de s'en prendre au kiosque au moment où ils contiennent des piles de voici avec dedans les talents de Castaner en gogo danseur. J'ai bien noté aussi que 7 Belges ont été interpellés samedi pour avoir notamment saccagé un Léon de Bruxelles et un Jeff de Bruges. Peut-on en rire? Je pose ça là, comme disent les jeunes. Voilà, l'humour est un canadair qui survole des forêts d'indignation en flammes. On peut déplorer qu'il n'arrive pas toujours pile au bon moment, ni pile au bon endroit, mais il revient quand même inlassablement pour nous empêcher de nous consumer dans la haine.
Pillage et incendie sur les Champs-Élysées. Mais comment l'exécutif a-t-il géré la crise? La journée d'Emmanuel Macron et de Christophe Castaner, racontée par Daniel Morin.
À gauche, à droite, à gauche, slalom, tout droit, wouhouhou, saut de bosse. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y a? À Paris, les gilets jaunes ont mis fin des kiosques à journaux. M'en fous, je suis abonné, je suis livré directement à l'Elysée. Ils ont ravagé le Fouquet's. M'en fous, je vais à la rotonde. Maintenant, foutez-moi la paix, appelez Castaner, c'est son boulot. Moi, je kiffe mes vacances à la neige.
Et pendant ce temps-là, dans une discothèque de jour...
Monsieur Castaner. Oui, monsieur le ministre, j'ai le préfet pour vous au téléphone. Je suis occupé.
J'adore t'embrasser, Gradiella.
Il dit que c'est urgent, Paris est en feu. Foutez-moi la paix. Je suis en train de rouler des pelles. Envoyez Benalla.
Dans l'actualité également, les suites de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. La référence à la théorie du grand remplacement expliquée, analysée par Sofiard.
D'après Renaud Camus himself, le terroriste australien n'aurait absolument rien compris à la théorie du grand remplacement. Comme quoi, on peut comparer l'immigration au nazisme et s'étonner d'être pris au sérieux. C'est possible, Renaud Camus l'a fait, et il a même désigné un autre coupable en déplorant l'effet sur des esprits faibles et mimétiques des atroces attentats dont notre pays a été le théâtre. Et bingo, c'est encore un coup de l'islam radical. Salauds d'islamistes. Et en plus d'être des salauds, ils inspirent d'autres salauds. Cher Renaud Camus, comment vous dire, ne pensez pas un seul instant que je perdrais une occasion de charger l'islam radical de tout ce dont on le sait coupable. Mais de là à leur faire éponger ce bain de sang alors que le terroriste lui-même se réfère aux suprémacistes blancs et à vos théories pourries, comment dire, c'est un peu fort de Harissa, vous ne trouvez pas?
Et puis c'était aussi la semaine de la presse et des médias à l'école et Guillaume Meurice est allé rencontrer des lycéens pour comprendre le rapport que les jeunes entretiennent avec la presse et les fake news.
Tel Jean-Marc Morandini, je suis allé devant les lycées ce matin. Par exemple, comment ce lycéen s'informe?
Je m'informe pas trop parce que déjà, Les informations, ça m'intéresse pas vraiment.
C'est-à-dire que vous vous en foutez de ce qui se passe dans le monde ?
Ouais, c'est ça.
Voilà, première petite astuce pour éviter les fake news, n'en avoir rien à carrer de ce qui se passe. Alors là, il n'y a pas de risque, hein. On te dit « les Illuminati vont venir détruire le monde ». Tu t'en branles complètement. Très bon remède à l'intox. Alors sinon, il y a Internet et plein de sites.
Info, je sais pas, bref, moi je regarde souvent ça.
Info, je sais pas quoi.
Alors, c'est souvent des nouvelles, mais...
Comment vous faites alors pour être sûr de l'info ?
Eh ben, on l'est pas.
Alors, autre astuce,
oui, bien sûr.
Allez sur des sites d'info pour ne pas vouloir s'informer. Alors là, c'est pareil, vous évitez complètement la désinformation. Concluons avec un dénicheur de fake news.
Tout ceci est quand c'est faux.
Mais comment vous faites pour savoir si c'est vrai ?
Ça c'est de toute façon. Tout ceci,
Non. Et c'est bien ça le problème. Je vous rappelle qu'on vit dans un pays où Pascal Pro a une carte de presse. Hein, alors, quoi faire ? Bah voilà, être vigilant, croiser les sources, lire Bourdieu et se dire que l'information est un sport de combat.
Et on termine avec cette information qu'a noté Tanguy Pastureau, l'interdiction de fabriquer certains pesticides repoussée de 3 ans par les députés.
Donc en novembre, les députés avaient voté l'interdiction des pesticides en 2022. 6 mois après, ils décalent l'interdiction à 2025.
Bon, est-ce qu'il y avait du monde lors de la séance à l'Assemblée nationale ?
Alors non, ils étaient 37 députés sur 577. Ah ouais. 10 ont tenté de s'opposer, dont Barbara Pompili qui est députée LaREM mais a une conscience. Elle sera à ce titre disséquée à sa mort par le musée de l'homme afin de voir ce qui n'allait pas chez elle. Alors reste une question, pourquoi avoir reculé de 3 ans la date d'interdiction des pesticides qui polluent les pays les plus pauvres et finissent dans notre assiette, sauf dans celle de Lily Rose Depp qui ne mange pas. Eh bien, disent les 27 députés, à cause de l'emploi, la fabrication de ces pesticides fait bosser des gens ici, comme l'armement, les abattoirs, l'industrie du tabac, tout ce qui est amoral génère des jobs. La question de l'emploi, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, l'épi de maïs qui là-bas en Ukraine cache les insectes crevés de s'être trop approchés des cultures. On s'est fait braquer notre démocratie par les lobbies, alors haut les mains et que personne ne mange.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Et notamment sur la fonction présidentielle. Vous avez dit que vous étiez le dernier à pouvoir vous exprimer sur le sujet. C'est possible. Mais vous êtes aussi le premier à pouvoir agir. Et donc, ma question n'est pas de savoir sur la durée du mandat ou les pouvoirs, mais c'est est-ce que vous avez le sentiment, 2 ans après votre élection, qu'il y a une excessive concentration des pouvoirs autour du président de la République ?
Toi, tu vas avoir des problèmes, Gilles. Je le dis en plaisantant, mais c'était votre vouvoie, évidemment, Gilles Finkelstein. Lundi dernier, à l'Élysée, le président de la République recevait 64 intellectuels. Vous en étiez ? Jusqu'à 2h du matin, la sociologue Dominique Méda regrettait d'être tombée dans un piège. Est-ce que ça a été votre sentiment à vous également ?
Pas du tout. En tout cas, ça a été exactement conforme à ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'il n'y a pas de surprise. Donc évidemment, il y a de la frustration parce que c'est difficile d'avoir une conversation à 70. Donc on peut légitimement préférer un autre format, être moins nombreux, que ça se passe pas devant les médias pour avoir vraiment une discussion de fond. Donc on peut avoir cette frustration, mais il n'y a pas de surprise. C'est exactement ce qu'il était prévu. Donc pas de frustration. En même temps, je crois que c'était intéressant. Au-delà de la performance, sportive, de cette résistance incroyable d'un débat qui dure 8h15, donc qui avait un côté un peu étrange, et de cette performance qu'on a déjà vu dans d'autres débats, d'un président de la République qui est capable d'intervenir sur des registres très différents, sur des champs très différents. Donc, aucune surprise, juste une inquiétude, c'est que quand je regarde, on a publié, la Fondation et la Revue Civique ont publié cette semaine une enquête qui montre l'intensité du désir de changement profond à l'issue du grand débat. 86% des Français disent on attend un changement profond sur la politique économique et sociale. 78% on attend un changement profond sur les institutions et sur la démocratie.
Mais quel changement ? On va en
et
parler.
Ce qu'on a vu là, c'est, je crois, un changement qui risque d'être très modéré.
Natacha.
Il y a plusieurs points. La question de ce que sera le débouché du grand débat, en effet, ne nous incite pas à l'optimisme. Et je pense que le Premier ministre a lui-même expliqué qu'il y aurait des déçus. Ça risque d'être plus grave que cela. Donc, il n'y avait pas besoin de réunir 64 intellectuels pour comprendre qu'en effet, ça n'allait pas donner grand-chose, le grand débat. Sachant que dans le cadre de ce grand débat, la rencontre rencontre avec les intellectuels a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Bien sûr, Emmanuel Macron s'est expliqué sur certains points parce que les questions qui lui étaient posées l'y ont amené. Mais tout de même, ça n'empêche pas d'interroger la forme qui est ahurissante. C'est-à-dire que, tout simplement, nous avons eu affaire à un spectacle dans lequel le président de la République était au centre. C'est-à-dire qu'il fait venir 64 intellectuels pour que ces intellectuels lui posent des questions. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas les gens qui pensent. Pardon, mais le rôle des intellectuels, c'est d'essayer de penser le monde, c'est d'essayer de l'organiser selon une cohérence et de le restituer dans une, dans quelque chose qui soit intelligible. Eh bien, le président de la République ne vient pas pour interroger, pour se nourrir. Il vient pour répondre à des gens qui en sont réduits à lui poser des questions. Je trouve ça ahurissant sur ce que ça nous révèle du rapport d'Emmanuel Macron au savoir et à la pensée.
Même si la question que posait Gilles, vous en avez posé plusieurs, mais celle-là, et qu'on en a écouté un extrait tout à l'heure, est très forte. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est donc vous Gilles que je cite, qu'il y a une excessive concentration des pouvoirs autour du président de la République? Et c'est vrai que c'est une question qui se pose, mais tout le monde se tourne vers lui. Les gilets jaunes, pour qu'il y ait un changement, on s'adresse au président de la République?
Ben, on s'adresse au président de la République parce que, comme je le disais, il est sans doute le premier à pouvoir agir parce que c'est lui le président de la République. Ça n'empêche pas de se poser cette question-là. Et je crois que ce n'est en rien remettre en cause la nécessité pour le président de la République de disposer de pouvoir, de disposer d'une capacité de décision et parfois même d'une capacité de décision rapide. Et on a pu voir, notamment avec François Hollande au Mali, que c'était un atout sans doute par rapport à d'autres chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est en rien remettre en cause cela que de dire qu'il y a trop de choses aujourd'hui, trop de décisions qui remontent à l'Élysée et que ça finit par se traduire par une inefficacité du pouvoir de manière paradoxale.
Natacha.
Mais vous voyez toute l'étrangeté de ce dispositif où Gilles vous posait une question qui est une question parfaitement légitime et que les citoyens ont posée, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, en effet, la dimension démocratique est absolument essentielle. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les résultats du vrai débat, c'est-à-dire la plateforme des Gilets jaunes, organisée par des Gilets jaunes de la France entière, on s'aperçoit que ce sont les questions démocratiques, pas les questions fiscales qui arrivent en tête, les questions institutionnelles. Or, cette question que vous posez, vous la posez dans un dispositif qui, justement, nous démontre que nous sommes dans un moment de mise en avant absolument dingue du président de la République et donc d'instrumentalisation de sa position pour des moyens de communication.
Gilles.
Mais que le président de la République ait été au centre du dispositif, d'ailleurs comme il est au centre du grand débat et comme il est au centre de la vie politique française depuis maintenant de nombreuses années, c'est absolument incontestable. Que ce débat ait été, vous avez dit, hallucinant, en tout cas qu'il y ait eu une forme extraordinaire, à la fois le fait qu'il y ait 64 intellectuels comme ça, et même que le président de la République, dans quel autre pays verrait-on un président de la République pendant 8 heures, et ça je crois que c'est un côté plutôt positif, discuter avec des intellectuels? Ils ont posé des questions, vous avez raison, ils ont pu, au travers de ces questions aussi, pour ceux qui le souhaitaient, développer ce qu'était leur conviction, ce qu'était leur savoir. C'est pas la forme que j'aurais souhaité, mais il y avait quand même la possibilité de le faire, et c'est pour
Gilles,
ça en tout cas que moi j'y suis allé.
Gilles, un débat nécessite qu'il y ait des réponses, qu'il y ait petit à petit un échange. Là, ça n'était pas un débat, encore une fois, c'était une forme ultra codifiée dans laquelle chacun avait le droit de poser une ou deux questions et il n'y avait
Gilles
pas
en
ensuite
trois.
De reprise. Oui, parce que Gilles
je
était extrêmement volontaire et qu'il a réussi à s'imposer. Et bravo. Mais, pardon, ça n'est pas ça, un débat. Et le président de la République n'a fait, du coup, que utiliser les intellectuels présents pour déployer sa propre politique et sa propre pensée. À aucun moment, il n'a tiré quoi que ce soit de la masse d'intelligence qu'il avait en face de lui.
Gilles Finkelstein.
Oui, enfin, ce n'est pas faux, ce n'était pas un débat. Ça, encore
non,
une fois, non, il n'y a aucun doute
débat
là-dessus. Moi, j'avais prévu de poser une question sur autre chose. J'avais prévu de poser une question sur l'Europe. Mais précisément pour essayer de faire en sorte que ce soit un peu un débat, j'ai essayé de rebondir sur trois sujets qui avaient été évoqués, oui, sur lesquels je n'avais pas été rassasié par les réponses du président, pour rebondir.
Et justement, le président de la République, Emmanuel Macron, vous a répondu. Et pour justifier l'excessive concentration des pouvoirs sous la Ve République aux mains du président de la République, il disait que c'était quelque chose d'utile, notamment quand on le comparait aux autres dirigeants de pays dictatoriaux, comme le président chinois, par exemple, qui a la vie devant lui pour mener à bien des projets qui peut penser à long terme, alors qu'un président français, lui, il est... j'allais dire malheureusement pour lui, soumis à la contrainte des élections.
Vous savez que parmi les premières revendications des Gilets jaunes, celles qui ont émergé, la première fois que ça a été organisé et que a été actée la liste de 42 propositions des Gilets jaunes au tout début du mouvement, il y avait le retour au septennat. Bien sûr que le temps long est quelque chose d'essentiel. En revanche, le temps long nécessite aussi des contre-pouvoirs. Là, on peut critiquer la constitution de la Ve République dans la mesure où, en effet, elle concentre tout, mais elle organisait tout de même des contre-pouvoirs. Ils ont été petit à petit supprimé.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Ça n'a jamais été fait, mais j'ai souhaité pouvoir mettre en œuvre, en quelque sorte, l'idée que pendant plusieurs mois j'avais défendue. C'est-à-dire dire quand on parle aux Chinois du multilatéralisme, on a besoin d'avoir une Europe groupée. Et donc j'ai proposé à la chancelière, au président Juncker, ils seront là et ensemble nous parlerons au président Xi Jinping mardi matin.
Le président Emmanuel Macron à son France Inter, il s'exprimait donc à propos de la visite du président chinois, visite d'État en France qui commence à partir de demain. Dernière étape d'une tournée dans plusieurs pays d'Europe. Et ce qu'a imaginé le président de la République, c'est d'accueillir son homologue chinois, non pas seul, mais avec le renfort de la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Gilles.
Oui, ça peut sembler anecdotique, mais je crois que ça ne l'est pas. Vous avez dit, après que le président Xi Jinping vient en France, après d'autres pays, c'est pas dans n'importe quel pays, il est allé en Italie, et il est allé en Italie pour conclure un accord bilatéral dans les relations entre l'Italie et la Chine, et notamment sur le port de Trieste. Le fait que le président de la République en tire comme conséquence qu'il ne va pas le recevoir seul, mais qu'il va le recevoir avec le président de la Commission et la chancelière, traduit, je crois, un changement, ou en tout cas un changement de ton, un changement que l'on retrouve également dans le document que le Conseil européen a adopté il y a quelques jours, le plan d'action dans lequel il y a ce que l'on dit traditionnellement de manière diplomatique dans les relations avec la Chine qui nous rapproche, le multilatéralisme, la lutte contre le changement climatique, mais où il y a un changement de ton qui est très net, dans lequel on, pour la première fois, l'Union européenne affirme qu'il y a une rivalité sur le modèle politique. C'est ce qu'on évoquait à l'instant sur la démocratie, et qu'il y a aussi une concurrence forte dont on essaie de tirer les conséquences en reprenant une proposition du Parlement européen dont on débattait il y a quelques semaines du rôle, qui consiste à filtrer, à examiner par un filtre les investissements directs des Chinois dans l'Union européenne.
Natasha,
donc
Polony,
on est dans un moment où il y a ce changement de ton qui est illustré de manière symbolique par cette proposition d'Emmanuel Macron.
Je trouve cette proposition d'Emmanuel Macron très intéressante dans la mesure où elle traduit en effet la nécessité de prendre conscience que nous n'existerons pas, nous Européens, dans la guerre commerciale excessivement violente qui se joue actuellement si nous nous présentons dispersés. Bien entendu. On voit notamment avec l'affaire Huawei à quel point la tension est en train de monter entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont essayé, de ce point de vue-là d'ailleurs, d'instrumentaliser l'Europe pour imposer leur vision dans cette guerre et pour nous mettre de leur côté. Nous avons donc besoin d'une doctrine commune. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que une fois de plus, on a l'impression que le président français est le seul à avoir cette vision multilatéraliste. Parce que quand on regarde dans les faits la politique allemande récente, à aucun moment, les Allemands n'ont donné le moindre signal selon lequel ils allaient changer leur politique. Une politique qui a toujours constitué, in fine, au pied du mur, à défendre leurs intérêts propres et donc à refuser que l'Europe se protège quand il le fallait face aux intérêts chinois, parce que ça risquait de limiter la puissance industrielle et commerciale de l'Allemagne.
Gilles.
D'abord, la Chine est beaucoup moins en position de force
qu'on le croit souvent. Elle est dans une difficulté extérieure dans ses relations avec les États-Unis, où elle a peu de moyens de riposte face à Donald Trump. Elle est dans des difficultés intérieures qui sont très importantes et qui tiennent pas seulement au niveau de la croissance, qui tiennent au fait que de plus en plus cette croissance n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable sur le plan de la pollution, elle n'est pas soutenable sur le plan de l'endettement, et notamment le système bancaire qui a beaucoup prêté aux collectivités locales est très fragile. Et surtout, il y a un problème de répartition avec les migrations entre les villes et les campagnes, de répartition entre les plus riches et les plus pauvres dans un pays soi-disant communiste. Donc la Chine n'est pas autant que cela en position de force. Évidemment, il ne faut pas être dispersé, Natacha a raison. Évidemment, il faut affronter les Chinois, mais il ne faut pas seulement être défensif, il faut aussi être offensif, c'est-à-dire avoir nous-mêmes une politique de compétitivité, d'investissement qui fait qu'on peut tenir tête non seulement aux Chinois, mais aux autres.
Natacha,
vous prêchez une convaincue, je pense que je prononce le mot réindustrialisation à peu près à chacune des émissions.
C'est pas toutes les
semaines.
Plusieurs fois.
Voilà, et plusieurs fois. Simplement, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que tout cela relève de rapports de force politiques et que dans ce rapport de force, il faut que la France impose sa volonté, encore une fois, je le dis, à l'Allemagne, dans la mesure, et à l'Allemagne, et à, par exemple, au président de la Commission européenne, qui est en fait l'homme des Allemands. Et on l'a vu, encore une fois, quand la Commission prend des décisions sur les questions de concurrence, ce n'est jamais dans le sens de la constitution de géants européens, puissants, indépendants. C'est cela qu'il va falloir changer.
On va passer tout de suite au débat. Une curiosité, puisque Gilles soulevait la question écologique. Natacha, pourquoi est-ce que vous dites du mal de Greta Thunberg, cette petite Suédoise qui a lancé cette grande mobilisation.
Mon Dieu, la transgression.
Mais oui.
Non, pardon. Nous avons fait une enquête à Marianne sur la façon dont a surgi cette icône, qui évidemment n'a pas surgi de nulle part, qui est un personnage extrêmement marketé, que une agence de communication a utilisé. Simplement, derrière, je pense que la lutte contre le climat, contre le changement climatique, ça relève de la politique, ça ne relève pas des bonnes intentions. Il suffit pas de... Quand on voit Brune Poirson, ministre, venir manifester dans les marches pour le climat, on se dit qu'il y a un problème avec ces marches sur le climat.
Mais
elle manifeste contre sa propre
nos
politique.
Idoles, Natacha. Et je le dis avec le sourire à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Jack Lang.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Je suis de ceux qui croient qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir.
François Mitterrand, le 4 mars 1988, devant le chantier de la pyramide du Louvre, interview sur Antenne 2. Le Grand Louvre et sa pyramide fêtent leurs 30 ans et le Louvre est aujourd'hui le plus grand musée du monde. Un record symbolique était franchi l'année dernière avec plus de 10 millions de visiteurs. Notre invité a conçu et porté le projet du Grand Louvre, l'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde Arabe. Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
Et bienvenue, vous publiez les batailles du Grand Louvre aux édition de la Réunion des musées nationaux. On doit vous dire bon anniversaire.
Bon anniversaire à tous les artisans de ce grand projet, ceux qui l'ont conçu, à commencer par le président François Mitterrand, mais à tous ceux qui ont fait que ce rêve est devenu réalité.
Et il a fallu combattre pour le réaliser, ce rêve-là. 30 ans après, quel regard portez-vous sur les débats, les batailles passionnées de l'époque?
Mais moi, je m'en suis toujours réjoui. Je préfère une société dans laquelle on discute, on s'affronte, et notamment sur les questions culturelles, on pourrait à l'inverse se plaindre qu'aujourd'hui ce soit calme plat.
Même quand on lit dans la presse de l'époque, dans le Canard Enchaîné par exemple, du haut de cette pyramide, 6000 langues vous contemplent, ça vous fait sourire, mais c'est assez étonnant. Aujourd'hui, ça semble une évidence de voir le Louvre au cœur de Paris, sa pyramide, ça ne suscite plus de débats. Ça s'explique comment ça, Jack Lang?
Parce que finalement, nous avions pensé que cette pyramide, ce joyau, s'insérerait harmonieusement dans la cour Napoléon et que finalement, on finirait par ratifier ce choix. D'ailleurs, nous avons été tout au long des années de polémiques soutenus par les citoyens eux-mêmes. C'est une fraction de l'opposition de l'époque et de la presse, et en particulier le Figaro Magazine, qui était dirigé par un homme brillant, mais très idéologue, Louis Poels, qui menait combat semaine après semaine, mais je m'en réjouissais beaucoup parce que ça nous obligeait nous-mêmes à être plus clairs, ça nous obligeait à affiner et à donner des informations aux citoyens sur ce projet.
Natacha.
Si je ne me trompe, et pour ma part, je trouve que le projet du Grand Louvre était essentiel et que c'était une réussite. Mais parmi les critiques de l'époque, et on ne peut pas les balayer d'un revers de main, il y avait premièrement quelque chose qui rejoint ce que vous venez de dire. En effet, cette idée que la pyramide était un joyau qui utilisait le Louvre pour sertir ce joyau. Et que donc le Louvre devenait un décor pour cette pyramide. Ce qui, à mon avis, se révèle faux. Mais tout de même, on peut entendre, il y avait une question à se poser là-dessus. C'est-à-dire sur le rapport entre le contemporain et le patrimoine plus ancien. Comment on fait dialoguer les deux? Et deuxième critique, qui, à mon avis, n'était pas à rejeter, qui était sur l'organisation même de tout ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire le mélange entre les commerces et le musée, et finalement cette question derrière de la transformation de l'art en outil pour faire du tourisme et pour faire de la vente.
Sur le premier point, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, c'est parce que les polémiques se sont braquées vers l'installation d'une œuvre contemporaine dans cette cour du 19e siècle.
Qui était un parking.
C'était un parking abominable.
Ah oui, c'était immense.
Les fonctionnaires des finances et les conservateurs l'utilisaient comme parking. Il y avait au milieu un square pisseux qui n'inquiétait personne, et notamment pas les défenseurs du patrimoine. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense que le projet, d'ailleurs, la note que je publie dans ce livre, que j'ai adressée à François Mitterrand en juillet 81, ne porte absolument pas sur une éventuelle pyramide, nous n'y pensions pas, mais sur le projet du Grand Louvre. L'idée première, c'était de dédier la totalité du Palais des Rois au musée pour en faire le plus grand musée du monde. Et donc, j'avais le culot, comme petit ministre de la Culture, de demander qu'on déloge le grand ministère des Finances, le ministère puissant, le ministère géant. Et c'est ça qui a d'abord provoqué des tressaillements.
Pour l'anecdote, oui, il y en a qui n'ont pas voulu quitter d'ailleurs les lieux et qui ont fait de la résistance. Je me souviens d'Edouard Balladur.
Oui, par exemple.
Oui, c'est un des éléments qui atteste de la réussite du Grand Louvre, c'est que ça paraît aujourd'hui une telle évidence que les batailles de l'époque semblent totalement surannées quand on voit que...
Pas toutes justement, alors, on va y revenir avec Natacha.
En tout cas, sur la partie architecturale, l'extension, c'était la pyramide, c'était un parking et le ministère des Finances occupait une partie. Quand vous dites qu'il y a eu l'opposition d'une partie de la presse, notamment du Figaro Magazine, mais les résistances internes, et notamment les résistances de l'État, les résistances du ministère des Finances au premier lieu, n'étaient pas moins importantes que les autres.
C'est normal, une démocratie, il y a des rapports de force. Et d'ailleurs, la note que François Mitterrand a inscrite avec sa belle écriture sur le projet que je lui soumets est claire sur ce qui allait se passer. Il m'écrit « Bonne idée ». Mais difficile à réaliser comme toutes les bonnes idées. C'était en juillet 80. Ça voulait dire, on y va, feu vert, mais il faudra se bagarrer et convaincre.
Alors, dans ces bagarres, justement, il y a eu des affrontements, il y a eu des arguments de mauvaise foi, il y avait les conservateurs qui, non pas au sens de conservateurs de musée, mais les conservateurs au sens idéologique qui ne voulaient pas qu'on touche à cet espace-là. Et il y a des reproches, par exemple, comme ceux que citait Natacha, et vous les citez dans votre livre, Jacques Lang, l'historien Marc Fumaroli, académicien, esprit prodigieux d'érudition, qui est président de la Société des Amis du Louvre. À l'époque, il vous avait accusé de vouloir transformer les sous-sols de la pyramide en môle à l'américaine.
Je crois qu'il en est revenu et nous en parlait ensemble. Mais en tout cas, disons que...
Non mais sur ce reproche-là...
Il y a une partie...
Puisque vous l'évoquez.
Mais il y a une partie mais qui est pas mélangée du tout avec le musée. Où d'ailleurs, on y trouve des livres, on y trouve des choses de très belle qualité. Et c'est réalisé avec un grand goût. Et c'est Pei lui-même qui a réalisé avec son merveilleux béton ces parties. Donc elles sont secondes, je dirais, par rapport à l'essentiel. Et en effet, alors... Par rapport à ce que disait Sacha Polony, il y a un point, effectivement, sur lequel on peut se livrer une sorte d'autocritique. C'est que, pour obtenir, face à une opposition virulente, le soutien des conservateurs, alors au sens du musée,
oui.
On ne pouvait pas être en bataille sur tous les fronts, Nous avons conclu une sorte de compromis, je crois l'avoir appelé à l'époque une sorte de Yalta, avec les conservateurs du musée, en leur promettant qu'on ne bougerait pas les frontières de leur département respectif. Et disons que, on n'avait pas le choix. Mais c'est une erreur quand même, parce que le Grand Louvre serait dû être aussi la transversalité entre les périodes de l'histoire, entre les disciplines, ce qui, par ailleurs, a été en partie réalisé au Louvre-Lens. Il n'y a pas de coupure entre départements, ou au Louvre à Abu Dhabi, où se répondent les civilisations, les périodes, et c'est passionnant du point de vue historique.
Natacha.
Oui, mais cette question de l'organisation des expositions, la question des frontières entre disciplines, c'est une question essentielle dans la mesure où ça révèle la façon dont nous allons pédagogiquement transmettre la vision de notre patrimoine. Et il y a, me semble-t-il, un problème qui est sans doute une mode actuelle, qui est celle de justement d'aller peut-être un tout petit peu trop loin dans la transversalité, c'est-à-dire d'oublier cette dimension tout simplement d'adresse à des publics non avertis, l'idée de replacer chaque œuvre dans son contexte et d'expliquer historiquement à quel moment elle surgit et pourquoi. Et on a tendance, dans beaucoup d'expositions contemporaines, à faire des rapprochements parfois excessivement artificiels, qui me sembleraient dommageables dans un musée comme le Louvre. Donc, dans un sens, sur ce plan-là, je me dis que peut-être l'excès de conservatisme est plus intéressant que l'excès de nouveauté.
En tout cas, vous êtes comblé, c'est fait. Quand on veut faire une exposition sur la Renaissance, la très belle exposition qui a été réalisée au Louvre-Lens, on peut réunir à la fois, la Renaissance, ça se coupe pas en morceaux, c'est à la fois l'architecture, la sculpture, la peinture, l'écriture, la langue française et le reste. Mais bon, de toute façon, la question est tranchée, j'allais dire, dans la pierre.
Gilles.
Oui, elle est tranchée dans la pierre et dans le marché de la culture est devenu concurrentiel. Le marché des musées est devenu extraordinairement concurrentiel et on se dit que heureusement que le Grand Louvre a été créé et que le Louvre a réussi à faire sa mue parce que la qualité des expositions, des musées un peu partout dans le monde fait que si une place comme la France veut garder celle qu'elle a, il fallait faire ce tournant et hein, je pense que Natacha a sans doute raison qu'il faut qu'il y ait des lieux dans lesquels il y ait cette continuité historique. Bon, mais en tout cas, la qualité de pour les gens qui viennent au musée n'a rien à voir avec ce qu'elle était. Et heureusement, parce que là aussi, si ça n'avait pas été fait, je crois que le Louvre ne serait pas aujourd'hui.
Il faut se rendre compte qu'avant d'engager cette grande aventure, bon, le Louvre était cracra d'abord. Très poussiéreux, abandonné, l'entrée quasiment inaccessible ou invisible. D'ailleurs, pour revenir à la pyramide, c'était la couverture simplement d'une entrée centrale que nous voulions instaurer et évidente pour les visiteurs. Non, il y a eu un effet Grand Louvre, d'abord sur l'ensemble des musées de France. Tandis que nous réalisions le Grand Louvre, nous rénovions 200 musées à travers le pays. Et puis, nous avons fait, si j'ose dire, école, dans d'autres pays, en Asie, en Amérique latine, en Amérique. Et d'une certaine manière, le Grand Louvre est un peu un modèle, malgré ces imperfections dont nous parlions à l'instant.
Est-ce qu'un projet aussi colossal que celui du Grand Louvre serait possible aujourd'hui?
C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que parfois je me dis, mais est-ce vraiment vrai? Avons-nous rêvé?
Pourquoi est-ce vraiment vrai?
Mais est-ce vraiment vrai qu'on l'a réalisé? Est-ce vraiment vrai que, dans le même temps, nous construisions un nouvel opéra? C'est un autre sujet de polémique.
Oui.
Et ça...
Ça, pour le coup, la polémique est toujours là, sur l'architecture en tout cas.
Et l'architecture et le reste, on fêtera, je crois, le 14 juillet prochain, le 30e anniversaire, un de plus, de son inauguration. Les colonnes de Buren qui ont fait aussi couler beaucoup d'encre, mais aussi la Cité de la Musique, mais surtout un peu partout à travers le pays. Et ce qui fait que nous avons pu quand même surmonter les obstacles. C'est d'abord notre volonté, celle de François Mitterrand, d'abord déterminée, notre conviction absolue. Mais dans le même temps, partout à travers le pays, nous contribuions à faire surgir dans ce qui était un peu un désert culturel. Ici, des bibliothèques, là, des musées, ailleurs, des centres d'art contemporain. Et donc, les citoyens avaient le sentiment que nous agissions pour l'ensemble du pays. Et donc, je ne veux pas établir de comparaison avec aujourd'hui, mais notre peuple est ainsi fait.
Mais il faut le faire.
Notre peuple est ainsi fait, pas seulement pour la politique, qu'il a besoin à la fois de proximité. La décentralisation répond à cette exigence de proximité, les cinémas, les librairies, les centres d'art, un peu partout à travers le pays. Et, en même temps, un besoin de grands dessins, de grandes réalisations, qui portent plus loin l'imaginaire collectif, et le Grand Louvre en est l'une des expressions.
Natacha.
Alors, je pense qu'il y a eu, en effet, à l'époque, une politique de patrimoine absolument formidable et de création. Simplement, il y a aussi des limites à cela. Nous avons publié il y a deux semaines dans Marianne une pétition contre le dirigisme artistique d'État, signée par différents grands noms du monde de l'art, notamment par exemple le philosophe Yves Michaud. Et ce que disent ces personnalités, c'est que en gros, depuis 40 ans, l'État est le français est le plus interventionniste du monde en matière de création artistique, mais d'une façon qui tord complètement le monde de l'art en occultant 90% de la création, c'est-à-dire que on survalorise des créations conceptuelles, des créations de posture, des créations qui relève d'une esthétique internationalisable et financiarisable, et que l'État se mêle au privé dans une sorte de conflit d'intérêts où en fait on enrichit certaines galeries, certains spéculateurs en ne favorisant que ce type d'art, c'est-à-dire par exemple, vous voyez la pétition commence par cette nous avons aujourd'hui en France un État capable de faire voter une loi pour protéger une liberté d'expression artistique de type plug anal, le fameux plug anal de McCarthy, quand simultanément il occulte et ringardise 90% de la création actuelle. Qu'en pensez-vous, Jacques?
Attends, oui. Juste pour prolonger...
D'un mot, j'ai les
pieds, Jacques. D'un mot, parce qu'en fait, est-ce que le problème n'est pas exactement le problème inverse? C'est-à-dire non pas le dirigisme d'État, mais le fait que ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la très profonde décentralisation de la politique culturelle, fait que il est très difficile d'avoir un grand ministre de la Culture aujourd'hui, parce que il a beaucoup moins qu'auparavant les moyens, justement, d'avoir ce dirigisme d'État.
Oui, Jacques, en même temps, vous savez, les chantiers ne manquent pas. Si l'on voulait, par exemple, ce que nous avions engagé très fortement, réinstaurer la présence de l'art et de la culture à l'école, ce n'est pas la décentralisation qui s'y oppose, tout au contraire. Si l'on voulait mieux maîtriser les industries de la culture et réguler un peu plus, quand même, ce que nous subissons venant notamment des États-Unis, c'est la volonté politique qui l'a. Et là, je suis pour une sorte de diriger une volonté d'État, en tout cas, face à toutes ces menaces qui planent sur le cinéma, sur la télévision, sur la transmission du savoir sous toutes ses formes. Bon, en tout cas, ce n'est pas faux qu'il y a parfois une sorte de porosité, voilà, entre certains responsables d'État et le marché de l'art.
Mais ça va plus loin.
La situation est très différente de celle qui était la nôtre. Quand je suis devenu ministre en 81, il y avait quelques galeries, il y avait une seule galerie de photographie, celle d'Agathe Gaillard, en province aucune, et à ce moment-là, il fallait activer un peu le marché de l'art qui était très pauvre. Il était à Tokyo, il était à New York, il était à Londres et ailleurs. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a eu entre certains responsables d'État et le marché de l'art, des complicités beaucoup trop grandes, beaucoup trop fortes, et qui se traduisent en même temps par le renchérissement des prix.
Mais le renchérissement sur une petite partie des artistes qui sont ceux qui sont des vedettes internationales qui font l'objet d'une spéculation par des grands collectionneurs. Et ce que dit cette pétition, c'est qu'en fait la politique d'acquisition des œuvres d'art par les collections publiques favorise ça au lieu de s'intéresser à d'autres types d'art.
C'est vrai pour une part.
C'est-à-dire qu'en gros, on favorise les installations.
Une politique de l'art et de la culture, elle doit être régulièrement réévaluée. Réadapté en fonction de l'évolution. Les choses ont beaucoup changé, mais en même temps, les fonds régionaux d'art contemporain, certains peuvent suivre le marché, d'autres pas. Je prends l'exemple du FRAC Orléans. qui est absolument admirable pour le travail de collecte de l'architecture contemporaine à travers le monde, qui est dirigé par Abdelgader et qui fait un travail absolument remarquable. D'autres FRAC font aussi ce travail d'encouragement aux jeunes artistes.
Mais si on revient au Grand Louvre, à l'aventure des grands travaux, le problème, c'est un problème de volonté politique? Est-ce que c'est un problème de ce qu'on a qualifié souvent de couple, François Mitterrand et vous, le général de Gaulle et André Malraux, c'est ça le problème ou c'est ailleurs?
Où est-ce que c'est que l'État est devenu impécunieux, que l'État a de moins en moins une perspective longue?
Bon, impécunieux, vous savez, quand nous avions pris l'engagement de porter le budget de la culture à 1% du budget de l'État, et en le faisant grimper chaque année, et malgré les circonstances, en 83, il y a eu une grave crise, et le musée de la culture a été augmenté, idem en 93. Ce n'est pas l'argent. C'est le sentiment profond que l'art, l'éducation, le savoir doivent être au cœur de la société et de l'ensemble des efforts collectifs, pas seulement de l'État, bien entendu.
Et ça, ça a fait défaut à tous les présidents de la République qui ont succédé à François Mitterrand pour
ne,
vous?
Ne caricaturons pas, parce qu'il y a eu aussi des choses qui ont été faites. Bon, Jacques Chirac a créé le musée Branly, et même Nicolas Sarkozy, sur lequel on s'attaque, a quand même contribué, moi j'en suis reconnaissant, d'avoir contribué à faire naître la Philharmonie. Et François Hollande a parachevé le projet d'opéra Bastille par la création de la salle modulable qui sera inaugurée d'ici un an ou deux.
Et Emmanuel Macron?
Pour l'heure, il est dans une période intermédiaire.
C'est joliment dit, une période intermédiaire.
Ça veut dire qu'il n'a pas de vision de ce que doit être une politique culturelle.
C'est un homme cultivé, c'est un homme raffiné, c'est un homme brillant. Je crois que le moment viendra, je l'espère, où il pourra annoncer un certain nombre de grands projets.
Mais pour faire vivre une politique culturelle, il n'y a pas seulement une question de budget, même si c'est extrêmement important, mais la distribution de ce budget est importante aussi, c'est-à-dire la tendance parfois à survaloriser certains types de créations plutôt que d'autres. Et puis, il y a aussi la question de la transmission, la question de savoir si réellement nous avons la volonté de faire en sorte que les futurs citoyens français aient une culture artistique. Or, là aussi, la politique depuis des décennies est quand même d'une pauvreté totale en matière de non seulement de pratique, mais de culture artistique à l'école.
Oui, Jacques Langlais,
écoutez, je suis d'accord à 2000% avec vous, si j'ose dire, avec Catherine Tosca, qui était ministre de la Culture à ce moment-là, et moi-même ministre de l'Éducation nationale, nous avons mis au point un plan que nous avons réalisé de l'introduction des pratiques artistiques, de la culture artistique et des arts à l'école, de la maternelle à l'université. Et malheureusement, nos successeurs ont considéré que c'était second ou secondaire. Moi, je considère que ces questions de l'art et de la culture doivent faire partie de ce que l'on appelle les fondamentaux de l'école.
Et ça, ça n'a jamais été le cas en France.
Si, ça a été le cas entre 2000 et 2002.
Mais il a toujours été préférable d'être bon en maths ou bon en français plutôt que dans les pratiques artistiques à l'école, non?
Pas nécessairement. En tout cas, si on fait entendre une autre musique, si j'ose dire, on peut aussi réussir sa vie par l'art, par la musique, par le théâtre et par la langue.
La culture, c'est évidemment un outil politique, c'est un outil économique si l'on songe au tourisme et par exemple à ces millions de visiteurs qui se rendent au Louvre chaque année et qui viennent de partout sur la planète. On dit du Louvre que c'est le premier musée américain par exemple, considérant le nombre de personnes qui viennent le visiter depuis les États-Unis. À l'Institut du Monde Arabe, c'est aussi une manière de faire de la politique à travers la culture?
C'est d'une manière, si vous voulez, ça a été voulu ainsi, et j'essaye d'aller plus loin encore si c'est possible, de mettre en valeur, le monde arabe, on en parle souvent en des termes véhéments et violents, et parfois justifiés par ce à quoi on assiste, notamment au Moyen-Orient. Et en même temps, la culture arabe, dans son histoire et dans son présent, est une culture, ou les cultures arabes plutôt, sont pleines de talents, d'inventions et de créations. Dans la période où nous sommes, par exemple, dans les prochains jours, nous allons organiser, après l'exposition Cité millénaire, qui mettait l'accent sur les désastres de Daesh à Palmyre, à Mossoul et à Alep, exposition d'ailleurs en 3D qui va faire le tour du monde, Nous ouvrons un événement sur foot et monde arabe, qui pose davantage des questions de société. Foot et monde arabe, qui traite à travers 12 histoires, 12 pays, ce qu'est le rapport entre le foot et ses sociétés. En ce moment même, s'ouvre un festival de la danse ou de la chorégraphie arabe. Dans quelques jours, comme chaque année, des rencontres autour de l'histoire du monde arabe, à l'image de ce que j'avais créé à Blois pour les rencontres de l'histoire. Et cette année, le thème choisi n'est pas simple, c'est le corps. Et autour du corps, nous réunissons des historiens, des spécialistes pendant plusieurs jours. C'est comme une sorte d'université populaire ouverte pour confronter les historiens et puis les citoyens qui veulent. Et puis autre point très important, c'est la langue arabe. Il est inadmissible qu'au pays de François Ier, si j'ose dire, qui avait imposé la langue arabe comme l'une des trois langues du futur Collège de France, avec l'hébreu et le grec ancien, la langue arabe soit aussi faiblement enseignée dans nos écoles publiques, alors qu'elle est la cinquième langue pratiquée dans le monde, qu'elle est une langue de civilisation et de culture, qu'elle permet à des jeunes de trouver éventuellement des débouchés économiques. Et l'Institut du monde arabe assure un enseignement, je crois, de haute qualité que nous développons et surtout nous mettons en place.
On va y venir, mais prenons les choses dans l'ordre.
Allez-y.
Et un mot sur l'enseignement de la langue arabe avant de passer la parole à Natacha Polony. Comment expliquer qu'elle soit si peu enseignée justement?
D'abord, globalement, c'est le plurilinguisme qui en France aujourd'hui est maltraité. On a beau entendre dans les discours officiels l'appel au plurilinguisme, l'anglais, je n'ai rien contre l'anglais, devient la langue dominante, l'allemand souffre beaucoup, l'italien souffre beaucoup, même l'espagnol qu'on croyait en hausse est en difficulté, le chinois résiste un peu, mais pour le reste, nous ne sommes plus au pays du plurilinguisme.
Natacha.
C'est en effet, je pense, un problème qui est totalement sous-estimé. Vous avez tout à fait raison. La question de la défense du plurilinguisme, simplement sur la langue arabe spécifiquement, c'est aussi parce que cet enseignement de la langue arabe est très souvent instrumentalisé. C'est-à-dire que moi, quand j'entends certains me dire il faut développer l'enseignement de la langue arabe dans les banlieues parce que c'est leur culture, à qui on ne sait pas pourquoi plus spécifiquement eux, il faut développer l'enseignement de la langue arabe parce que c'est une langue de culture pour tous. Et certainement pas uniquement pour les descendants d'immigrés venus des pays arabes.
Mais ça va de soi, d'ailleurs. Je crois que plus d'un tiers des élèves, enfants ou adultes qui viennent à l'Institut du monde arabe, ne sont absolument pas liés par leurs origines au monde arabe.
Oui, mais vous voyez derrière, il y a des débats qui sont des débats la cohésion nationale, ce qu'est la France. C'est ça qui rend la chose difficile.
Un débat hypocrite, il y a une grande hypocrisie. La grande hypocrisie, au fond, il y a une forme de rejet, de racisme à l'égard du monde arabe en général, et de la part de ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre que le seul moyen de lutter contre l'instrumentalisation par les islamistes ou par les propagandistes, c'est d'assurer l'enseignement laïque de la langue arabe dans les écoles publiques.
Gilles Finkelstein.
Je crois que c'est exactement ça le point. Il y a une instrumentalisation politique et une grande hypocrisie. Et là, pas seulement sur la question de savoir à qui s'adresse l'enseignement de la langue arabe. De la langue arabe.
Beau lapsus.
Pardon. Mais qui assure cet enseignement?
Bien sûr.
Parce que le sujet est que cet enseignement se fait beaucoup à l'extérieur par l'enseignement des langues et cultures d'origine et qu'à chaque fois qu'on essaie de le réintégrer à l'intérieur de l'éducation nationale, eh bien, les mêmes sont en train d'hurler comme des putois que c'est un scandale. Et donc, c'est ce combat-là que Najat Vallaud-Belkacem avait engagé dans le quinquennat précédent et qu'il faut poursuivre. Sur la partie
dans l'enseignement public, ce sont des professeurs formés, il y a le CAPES, il y a l'agrégation. Moi-même, j'avais augmenté de 20% le nombre de postes à l'agrégation sont les professeurs de l'enseignement public et pas des gens qu'on raccroche comme ça par hasard.
Oui, c'est vrai, mais pendant très longtemps, on a fait venir, enseignants envoyés par d'autres pays, ce qui est une aberration totale.
Mais ce temps, je l'espère, est terminé.
Mais encore une fois, c'est une instrumentalisation permanente.
Je ne suis pas sûr qu'il le soit encore complètement, donc le combat continue. Sur la partie artistique de l'Institut du Monde Arabe, Jacques Lang tout à l'heure citait l'exposition Cité Millénaire, je crois que c'est un bon exemple à la fois d'exposition d'art et de lien entre l'art et la technique et l'art et la politique. C'est une exposition qui était absolument prodigieuse où on voyait la technique, c'est grâce au drone, grâce à la 3D, on réussissait à reconstituer le patrimoine qui avait été détruit à Mossoul et ailleurs. Et on réussissait, et je crois que c'est ça qui est aussi une des vertus de l'art, à rendre ça sensible, à rendre ça vivant. C'est pas seulement les pierres, mais on voyait aussi les témoignages de ce qu'étaient ces villes avant. Et je crois que c'est vraiment une des fonctions de l'art, qui n'est pas seulement une fonction artistique, mais dans laquelle il y a, au sens noble du terme, une dimension politique.
Jacques Lang, le problème...
Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a un aspect, disons, d'information, parce que dans cette exposition, on voit comment les habitants... commence déjà à reconstruire, notamment à Mossoul, comment les lieux religieux, aussi bien chrétiens que musulmans, vont être reconstruits. Donc il y a un message aussi d'espoir qui transparaît.
Il y a malgré tout une difficulté pour vous à parler de certains sujets, si l'on pense par exemple à ce qui se passe en Algérie. On imagine que vous êtes très enthousiaste quand vous regardez, quand vous voyez la jeunesse algérienne défiler, mais c'est très compliqué de prendre position, de les encourager.
Bon, d'abord, je ne suis pas un gouvernement, disons que je suis président d'une institution, et puis en même temps, bon, puisque vous parlez de l'Algérie, nous savons bien, pour ceux qui connaissent l'Algérie, moi j'ai enseigné en Algérie, j'ai beaucoup d'amis algériens, j'aime ce pays, c'est un sublime pays, et j'espère qu'il va s'épanouir pleinement, mais on sait que quand une autorité française, je ne suis pas ministre, mais se mêle de la vie intérieure, loin de faciliter les choses, ça contribue à faciliter l'action des plus conservateurs. Comme vous le savez très bien, je souhaite personnellement que les choses avancent, donc je ne veux rien dire qui puisse j'aime trop l'Algérie et les Algériens pour ajouter une parole qui serait elle aussi instrumentalisée.
Il resterait peu de temps, Natacha.
Mais vous êtes confrontée parce que, en effet, sur un institut comme c'est l'Institut du Monde Arabe, les questions sont à la fois artistiques et politiques. Vous êtes confrontée en permanence à des polémiques autour d'expositions, autour de conférences. Vous êtes tiraillée en permanence parce que c'est le lieu où l'on importe des conflits qui sont des conflits extérieurs. Je pense notamment à la question du rapport à Israël, à la question de l'islamisme et du voile. Sur ces questions là, quelle est votre doctrine? Non, écoutez, comment évitez-vous les instrumentalisations?
D'exprimer mes sentiments. La question qui m'a été posée porte sur l'Algérie.
Oui, bon, mais là, je vous pose la question sur les autres polémiques qui ont eu lieu, bon, notamment sur une photo de Benjamin Netanyahou.
Peut-être qu'un jour, on vous écrirait les batailles de l'Institut du Monde Arabe.
Non, mais vous savez, l'une des activités importantes de l'Institut, ce sont ces forums, ces fameux jeudis de Lima, ces rencontres, et où, dans un esprit de tolérance et de respect, les idées les plus contradictoires sont confrontées, sur les sujets que vous avez évoqués à l'instant, que ce soit sur la Palestine, ou Israël, ou sur tel ou tel pays. Et la parole est libre, à condition qu'elle soit respectueuse des uns et des autres.
Dernière question, une œuvre... que vous choisiriez dans le Louvre d'aujourd'hui?
Une œuvre dans le Louvre d'aujourd'hui?
Une œuvre, un tableau, une sculpture.
je dirais...
L'exercice est impossible, mais une.
C'est pas,
vous n'avez pas le droit de dire la Joconde.
D'ailleurs, je n'ai pas envie de dire la Joconde. Parce qu'elle est tellement maintenant enfermée, pour des raisons de sécurité, dans un univers de glace, qu'elle finit par vous glacer elle-même. Non, je dirais... Je serais tenté de prendre une des œuvres du département trop peu visité de la peinture française. Voilà. Je prendrais Samothrace aussi, parce que Samothrace est l'exemple quand même d'une magnifique œuvre qui a été arrachée à son site. Alors, ça pose une autre question. Faut-il un jour restituer Samothrace? Je pense que je serai seul à le penser.
Merci Jacques Lang d'avoir été notre invité. Les batailles du Grand Louvre est publié aux éditions de la Réunion des musées nationaux et sur le site d'Inter, vous trouverez la programmation du Louvre pour fêter cet anniversaire. Ça commence dès mardi prochain avec l'installation d'une œuvre de l'artiste J.R. dans la cour Napoléon. Natacha et Gilles, samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Maxime Ingrand. Quant à moi, je vous dis demain midi pour Questions politiques et à suivre sur Inter les Secret d'info de Jacques Monin.